Je continue. Vous voyez, cette dimension de l'avenir, on va y revenir. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas complètement clair pour vous et c'est tout à fait normal. Déjà, il remarque, quand il va parler de l'amour, il va marquer une série d'ambiguïtés. Il y a une double ambiguïté de l'amour. La première, c'est l'aspect choix et non-choix. Quand vous aimez quelqu'un, il y a une forme d'élection, au moins sous la forme de consentement, mais en même temps, vous n'avez pas choisi. Choisissez, vous ne choisissez pas. Regardez cette phrase paradoxale. L'aventure par excellence est aussi une prédestination. C'est magnifique. Mais ceux qui pensent que la prédestination, ce serait de l'ordre du programme, tout est déjà défini à l'avance. Et là, il nous dit, au contraire, c'est dans la prédestination qu'il y a l'aventure par excellence. Et quel est le modèle? C'est bien sûr, ce n'est pas le programme, ce n'est pas le calcul, c'est la rencontre amoureuse. Qu'est-ce qui se joue dans la rencontre amoureuse? Le fait que ti voglio, je te veux, bien sûr, ti voglio bene, je te veux du bien, je te veux, mais en même temps, je suis attiré, je suis dans une passivité radicale aussi. Et j'aimerais bien à certains moments ne pas vouloir, mais ça veut en moi sans que je veuille. De la même façon d'ailleurs, chez la femme qui est belle, donc Kaleo, Kalos, qui viendrait de Kaleo, appelé, eh bien la femme m'appelle, elle a du sexe à pile. Le sexe à pile, c'est une poupe, ça, vous voyez comment ça s'écrit, appeal, bien sûr. Je ne vais pas dire avec un moteur. Hein. Happy meal. Non, alors justement. Louis-Joseph, si vous confondez le sex appeal et le happy meal, vous allez confondre le M de Marie avec celui de McDonald's, hein, forcément. Peut-être que c'est ce qu'il fait, du reste, à chaque fois qu'il voit un McDonald's, il rentre dedans, il dit un chapelet à voix haute. Mais l'aventure par excellence est aussi une prédestination. Choix de ce qui n'avait pas été choisi. Vous voyez ? Choix de ce qui n'avait pas été choisi. Là, vous avez une définition du mariage. Il y a du choix, il y a un consentement, mais vous n'avez, en même temps, il y a du non choisi. Parce que sinon, ce n'est plus un mariage. Vous voyez. Sinon, c'est une association pour une entreprise, c'est une manière de vous voyez, mais il n'y a pas cet aspect de où vous êtes appelé aussi. Il y a une dimension à la fois de liberté et de passivité en même temps. Ça, c'est très mystérieux. Et ça, phénoménologiquement, il ne va pas essayer d'expliquer métaphysiquement, mais c'est phénoménologiquement un donné. L'amour comme relation avec autrui peut se réduire à cette foncière immanence, se dépouiller de toute transcendance, ne rechercher qu'un être connaturel, une âme sœur, se présenter comme inceste. Parce que quand vous dites « ouais, j'ai trouvé l'âme sœur », ça veut dire « ouais, je vais aller dans l'inceste ». Est-ce que vous voulez coucher avec l'âme sœur? Ça ne va pas, il ne faut pas trouver l'âme sœur, attendez. Si vous êtes sûr que votre femme n'est pas une sœur, si vous êtes sûr que vous ne la comprenez pas, si vous êtes sûr qu'elle n'est, vous n'avez pas un rapport de domination comme si elle était votre fille, à ce moment-là, vous avez une relation qui n'est pas un inceste. Pour qu'il n'y ait pas inceste, il faut qu'il y ait différence qui vous échappe. Alors, il reprend le mythe d'Aristophane dans le Banquet de Platon, où l'amour réunit deux moitiés d'un être unique. Donc ce mythe interprète l'aventure comme un retour à soi. Vous voyez, je n'irai vers l'autre que pour revenir à moi-même. Ça, c'est le mouvement grec par excellence, celui de l'Odyssée. Je vais à Troie pour revenir à Ithaque. Mouvement avec un retour vers soi-même. L'autre, J'aime l'autre, mais bien sûr, je me tourne vers l'autre pour me connaître moi-même. Ce qu'on voit par exemple dans l'Alcibiade de Platon. Tu ne peux pas te connaître, tu ne peux pas te voir toi-même. Donc pour te connaître toi-même, tu dois te tourner vers l'autre, parce que si tu veux voir ton visage, tu peux le voir dans la pupille de l'autre, dans l'iris de l'autre, mais tu ne peux pas te voir directement toi-même. Donc connais l'autre pour te connaître toi-même. Va vers l'autre pour revenir à toi. Voilà un mouvement classique, celui d'Ulysse. Mais le mouvement juif, c'est le mouvement d'Abraham. Va vers le pays que je te montrerai. Va vers le pays que je... Va vers toi-même, c'est vrai, hein, l'Ech Lecha. Va vers toi-même, vers le pays que je te montrerai. C'est-à-dire que c'est plutôt toi-même dans un mouvement sans retour. L'aventure, c'est du sans retour. Le rapport à l'altérité, c'est du sans retour. C'est l'avenir. Vous voyez ? Il n'y a pas de cycle. Il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de système. Alors, la question c'est comment se fait-il que l'on pense, malgré tout cette aventure, comme un retour à soi, et pas comme ouverture sans retour, donc ouverture à une transcendance, à un avenir. Eh bien, il le dit, il a quand même réfléchi. Parce que vous savez, il ne faut pas simplement montrer qu'une vision est erronée. Il faut montrer pourquoi est-ce qu'on est allé vers cette erreur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait de vrai dans cette erreur qui fait qu'on a pu être attiré par elle. Vous comprenez? Si vous commencez à critiquer le consumérisme, vous allez dire, ah, le consumérisme, c'est mal, etc. Mais pourquoi est-ce que c'est attirant? Il ne faut jamais oublier ça. Si vous n'avez pas montré la part de vérité qui est dans l'erreur, vous n'avez pas vraiment expliqué ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce que les gens vont vers cette erreur? Alors il explique d'où ça vient. La jouissance justifie cette interprétation. C'est l'expérience de la jouissance. Elle fait ressortir l'ambiguïté d'un événement qui se situe à la limite de l'immanence et de la transcendance. L'immanence, ce serait simplement le retour à soi. La transcendance, ce serait l'ouverture radicale à l'autre. Mais dans l'éros, il y a quelque chose d'ambigu. C'est une transcendance qui est souhaitée, mais où l'immanence est aussi là à travers la jouissance. Il y a une ambiguïté fondamentale de l'éros. L'éros n'est pas l'éthos. L'éros n'est pas l'éthique. L'érotique n'est pas l'éthique. Il en est le premier mouvement vers l'éthique. Il est le mouvement fondamental même qui va permettre l'instauration... est-ce que je peux dire ça, l'instauration? C'est peut-être pas juste, non. L'éthique est peut-être plus radicale, elle est plus au fond, mais dans l'ordre du temps, on commence d'une certaine façon par l'érotique. Voilà. Ce qui est premier dans le temps, c'est l'érotique, mais ce qui est premier en nature, ça va être l'éthique. C'est-à-dire cette ouverture à l'autre en tant qu'autre. Et même cette responsabilité pour l'autre en tant qu'autre. Mais là, on est dans cet ordre qui est cet ordre, je dirais, temporel, qui est celui de l'érotique, et il y a une ambiguïté dans l'éros. Et cette ambiguïté, il va la définir, vous allez voir. L'amour reste un rapport avec autrui, virant en besoin. Donc il y a du besoin aussi. Et ce besoin présuppose encore l'extériorité totale, transcendante de l'autre, de l'aimer. Donc ce besoin présuppose le fait que l'autre n'est pas seulement ce qui vient combler mon besoin, puisqu'il faut que ce soit l'autre, qui reste l'autre extérieur. Et voilà la phrase qui est une phrase capitale pour comprendre l'ambiguïté de l'éros, jouissance du transcendant presque contradictoire dans ses termes. Il dit « la possibilité de jouir d'autrui ». Cette simultanéité du besoin et du désir, de la concupiscence et de la transcendance, tangence de l'avouable et de l'inavouable, constitue l'originalité de l'érotique qui, dans ce sens, est l'équivoque par excellence. L'érotique est toujours équivoque. L'érotique est presque contradictoire en ces termes. Parce que je veux jouir, donc ramener à moi et à mon plaisir, mais je veux jouir d'autrui, donc ne pas ramener à moi. Et je suis pris dans cette ambiguïté. Cette ambiguïté qui se voit même dans les gestes des amants, qui voudraient presque saisir l'autre jusqu'à l'absorber, jusqu'à le dévorer, mais en même temps qui voit bien qu'il s'agit au contraire de réinstaurer l'autre dans cette altérité. Sinon, ce serait la catastrophe. Et il y a donc une ambiguïté foncière de l'érotique, qui a un avouable, « je t'aime, toi », mais un inavouable parce qu'il y a aussi « tu es aussi ce dont je jouis ». Vous voyez ? Et la jouissance, elle va poser ce problème. Vous savez, vous connaissez la phrase de Jacques Lacan, je pense que je l'avoir déjà commentée, hein, « il n'y a pas de rapport sexuel ». Vous connaissez cette phrase, veut dire la chose suivante, c'est d'ailleurs une observation qui est très classique, qu'on voit chez Baudelaire, par exemple, dans ses journaux. Si vous voyez justement le monde de la disponibilité absolue, le monde de la technique qui va investir même la sexualité, qui est un monde de simultanéité, vous voyez, de synchronicité, il faut synchroniser votre iPhone et votre ordinateur, vous savez, le mot synchroniser, c'est très important aujourd'hui. Eh bien alors, il y a cette idée, c'est ce fantasme romantique des orgasmes synchrones. Donc, la femme jouirait en même temps que l'homme. Et là, ce serait le couronnement de la communion, ce serait le rapport sexuel. Oui, c'est ça le grand cliché de celui qui tout d'un coup est entièrement disponible, vous entièrement disponible, et là, tout d'un coup, vous fusionnez dans... la jouissance synchronisée, vous voyez, comme l'iPhone et le MacBook. Les mêmes contenus passent de l'un à l'autre, les mêmes, vous voyez, tout est passé, voilà. Et alors, le grand truc, c'est de dire, mais en réalité, quand vous êtes dans cette situation d'orgasme, vous perdez votre rapport à l'autre en tant qu'autre. En fait, vous êtes pris, submergé dans une immanence qui est celle de votre jouissance. Donc au moment qui a l'air d'être le couronnement du rapport sexuel, c'est le moment où le rapport est aboli. Chacun est en fait dans sa sphère d'immanence, où l'autre est ce dont je jouis. Donc, il y a un problème, évident. La résolution, le rapport sexuel... Dans quoi est-ce qu'il s'affirme radicalement ? Ben, pas dans la jouissance commune. Parce qu'à ce moment-là, vous voyez, il y a aussi perte de l'autre en tant qu'autre. Ou s'il est encore là, parce que je sais que c'est l'autre, que je ne suis pas peut-être avec une poupée en plastique ou avec une escalope de veau. Je pense à ça parce que c'est dans un livre de Philippe Roth, un grand romancier juif, Portnoy et son complexe, où il parle de ça. Enfin, il y a des scènes assez étonnantes. Enfin, je vous laisse le lire, si vous voulez. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, même si je suis finalement en train de le faire. Mais... Pardon ?
S'étendre sur l'escalope de...
Voilà, exactement, c'est à peu près ça. Ce qui est en jeu ici, vous comprenez, c'est que il y a bien sûr que je sais en même temps que c'est l'autre. Donc il y a une ambiguïté qui reste insoluble. On ne peut pas dire absolument il n'y a plus du tout aucun rapport, mais on voit bien que ce rapport est ambigu. Et qu'au moment même où je crois que j'atteins le climax fusionnel, en réalité c'est le moment où peut-être je ne suis plus du tout avec l'autre. Vous comprenez ? Et chacun à ce moment-là va avoir peut-être des grandes paroles, appeler l'autre mon ange, l'autre mon... je ne sais pas, voilà. D'ailleurs, c'est très intéressant, dans la montée de l'excitation sexuelle, qui montre bien la tangence de l'avouable et de l'inavouable, vous pouvez trouver, ça, bon, je l'ai vu notamment en discutant avec des amis qui sont des spécialistes, notamment Catherine Millet, l'auteur de célèbre « Vie sexuelle » de Catherine M., qu'il y a... Vous pouvez partir dans des mots qui sont des mots qui vont vers le divin, qui sont d'ailleurs parfois absurdes, vous voyez, enfin, dire mon ange, vous voyez, à ce moment-là, c'est quand même des bizarres, parce que c'est précisément parce que ce n'est pas un ange qu'il y a ce rapport. Et puis de l'autre côté, vous pouvez partir au contraire dans, et ça on voit dans certains rapports pervers où ça s'est pas, dans l'insulte. L'insulte qui va être un moteur de l'excitation et de la jouissance. Voire même une sorte de violence, voyez, qui, dans lequel, voyez, l'inavouable, il est là. Ce lien qu'il pourrait y avoir dans la jouissance ou ces retours à moi et où même le fait d'insulter de, voilà, pourrait devenir même un moteur de la jouissance. Mais c'est pervers parce qu'on oublie que l'enjeu ici, enfin on ne voit plus, que, et il y a une perte parce que l'enjeu c'est l'érotique et la jouissance de l'autre aussi. Donc, vous comprenez? Mais il faut reconnaître que Lévinas n'est pas du tout en train d'idéaliser le rapport sexuel. Attention, hein, j'espère que vous le comprenez ça. Hein. C'est exactement l'inverse qu'il est en train de faire. Il essaye de faire une phénoménologie qui est vraiment, je dirais, honnête, la plus ajustée à son objet. Enfin, cet objet qui se dérobe.